L'idée de cette vidéo m'est venue à la suite d'un entretien de VA+ avec l'autrice Christine Goguet, venue présenter son livre « Les grands hommes et le diable », où elle aborde la face sombre de grandes figures historiques. Je me suis donc dit que ce serait une bonne idée de vous proposer une liste non exhaustive de grands personnages jouissant d'une grande renommée, étant parfois l'objet d'un culte romantique, mais dont on ignore ou dont on connaît peu la face cachée, beaucoup moins reluisante et parfois même aux antipodes des idées qu'il prônait. On commence avec le Che. De son vrai nom, Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Che Guevara, c'est l'icône ultime de la rébellion. Le visage imprimé sur les t-shirts, le symbole romantique du combattant de la liberté qui a tout sacrifié pour la justice sociale et les opprimés. La réalité du personnage est bien moins reluisante. Che Guevara était un idéologue radical et impitoyable, instigateur de la prison de la Cabaña, où il a supervisé sans procès des exécutions sommaires et même participé directement à ces dernières. Il était adepte d'une violence révolutionnaire extrême, théorisant que la haine est un élément central de la lutte. Comment le symbole mondial de la liberté a-t-il pu devenir un partisan aussi zélé de la censure, des camps de travail forcés et de l'exécution arbitraire?
Les sales gauchistes.
Son image a été nettoyée par le marketing de masse pour en faire une marque de mode, occultant totalement les aspects totalitaires de sa pensée. Ce qui est effrayant chez Le Che, ce n'est pas sa méchanceté gratuite, mais sa conviction absolue que la fin justifie les moyens les plus violents. Gandhi, c'est le saint pacifiste, le Mahatma, qui veut dire « grande âme », l'homme en dhoti blanc qui a vaincu l'Empire britannique par la simple force de sa volonté et de la non-violence. La réalité sombre, c'était un homme aux pratiques personnelles extrêmement controversées, ayant eu des positions racistes durant ses années en Afrique du Sud et une gestion familiale tyrannique. Lors de ses 20 ans en Afrique du Sud, Gandhi ne militait pas pour l'égalité de tous, mais spécifiquement pour les droits de la communauté indienne. Il a écrit des textes où il qualifie les populations noires sud-africaines de « kafir », qui est un terme injurieux, et les place dans sa vision du monde nettement en dessous des Indiens. Précisons que Gandhi a évolué plus tard en Inde, mais ce pan de sa vie ternit l'image du défenseur universel des opprimés que l'Occident a gravé dans le marbre. À la fin de sa vie, Gandhi a instauré des expériences de pureté. Il dormait nu avec de jeunes femmes, parfois ses propres petites nièces, pour tester sa maîtrise de lui-même et sa capacité à ne pas succomber au désir. On ne saura jamais quel fut le résultat de ces expériences, mais nous sommes tous d'accord pour conclure que c'était particulièrement loufoque et que ça soulève une question éthique et morale. Si Gandhi prêchait la non-violence et la liberté pour l'Inde, ses proches, sa femme et ses enfants, ont souvent décrit un homme rigide, froid et exigeant, qui imposait des régimes alimentaires stricts et des privations à sa famille tout en prônant l'ascétisme universel. Il a notamment refusé de faire soigner sa femme avec de la médecine occidentale par principe idéologique, ce qui a été perçu par ses enfants comme une forme de négligence cruelle. La perception publique, le couple mythique, précurseur de l'existentialisme, symbole du féminisme pour Beauvoir et de l'engagement intellectuel total, prônant la liberté absolue et la transparence totale. La réalité sombre, un système de prédation émotionnelle et sexuelle sur leurs élèves, une gestion toxique de leur entourage et une complicité dans des pratiques qui, aujourd'hui, seraient qualifiées de comportements pédocriminels. Sartre et Beauvoir n'étaient pas juste des amants. Ils entretenaient un réseau d'élèves, de jeunes femmes pour Sartre et de jeunes hommes puis femmes pour Beauvoir, qu'ils partageaient, manipulaient et parfois consommaient.
C'est un scandale.
Beauvoir en particulier était accusé d'avoir rabattu des jeunes filles pour les besoins de Sartre, tout en entretenant des relations troubles avec elles. Ils prenaient une honnêteté radicale entre eux, se racontant leurs conquêtes dans les moindres détails. La réalité, cette transparence était souvent une arme de contrôle. En forçant l'autre à tout raconter, ils s'assuraient de garder l'ascendant psychologique. Beaucoup de leurs maîtresses ou amants ont témoigné plus tard de la souffrance et de l'impression d'avoir été des objets de laboratoire pour nourrir l'ego intellectuel du couple. Bien que très engagés, ils ont souvent fait preuve d'un aveuglement volontaire sur les régimes totalitaires, notamment leur soutien parfois inconditionnel à l'URSS puis à Mao, malgré les preuves des purges et des famines. Sartre et de Beauvoir étaient des intellectuels qui, par purisme idéologique, ont refusé de voir la réalité sanglante du terrain. Ils ont construit une forteresse intellectuelle pour protéger leurs théories, même quand la réalité les contredisait brutalement. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir incarnent à merveille la gauche décadente des années 60, où la liberté sexuelle semblait surtout être un prétexte pour justifier et normaliser leur propre perversion. Ils ont notamment signé en 1977 dans le journal Le Monde une pétition demandant la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs. Rien que ça.
Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation.
Célèbre théoricien allemand du 19e siècle, essentiellement connu pour sa critique du capitalisme. Karl Marx est un paradoxe sur pattes, l'exemple parfait du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ».
Comme par hasard.
Il a théorisé la lutte des classes et dénoncé l'exploitation des ouvriers par les patrons, tout en abusant lui-même de sa domestique, à qui il a fait un gosse qu'il n'a jamais reconnu, puisqu'il ne rentrait pas dans son standing social.
Oh, les bâtards !
Marx était celui qui se présentait comme supérieur moralement, mais qui tenait des propos profondément antisémites et méprisants dans ses correspondances privées. Enfin, Marx, c'est le Tartuffe et le Parasite. Alors qu'il écrivait Le Capital, Marx ne travaillait quasiment pas et vivait au crochet de son ami et mécène, le riche héritier d'usine textile Friedrich Engels. Ironie du sort, l'homme qui a théorisé la chute du capitalisme a survécu uniquement grâce à la générosité du profit capitaliste. C'est le paradoxe du parasitisme intellectuel. L'autre ironie du sort, c'est que pendant que Marx théorisait la fin de la bourgeoisie, il a vécu une grande partie de sa vie grâce à l'héritage de sa femme Jenny von Westphalen, qu'elle recevait de sa propre famille aristocratique après le décès de ses parents. Mère Teresa, c'était l'icône de la charité, l'ange de Calcutta dévoué aux plus pauvres des pauvres, canonisé en 2016. C'était aussi de nombreuses critiques sur les conditions sanitaires déplorables dans ses mouroirs, où les patients étaient souvent privés de soins palliatifs et d'analgésiques sous prétexte que la souffrance rapproche de Dieu. Les critiques ont pointé le manque de transparence concernant l'utilisation des millions de dollars de dons reçus à travers le monde. Il était difficile d'obtenir des informations précises sur la manière dont ces fonds étaient réinvestis dans des structures médicales ou sociales. De nombreuses critiques évoquent d'importants transferts de fonds vers le Vatican, plutôt que d'être utilisés pour améliorer directement les conditions de vie ou de soins au sein des centres de Calcutta. L'abbé Pierre était une figure emblématique de la solidarité en France. Prêtre catholique, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et député. Il a acquis une immense notoriété nationale en 1954, en lançant un appel radiophonique historique pour venir en aide aux sans-abri lors d'un hiver particulièrement rigoureux.
Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée.
Il est le fondateur du mouvement Emmaüs. Mais patatras, la France entière a découvert stupéfaite en 2024 que l'abbé Pierre était en fait l'abbé Cochon. À la suite d'enquêtes internes menées par le mouvement Emmaüs et l'Église catholique, des témoignages concordants ont révélé des faits graves commis par l'abbé Pierre sur une période s'étalant de la fin des années 1940 au début des années 2000. Il a été accusé par de nombreuses femmes d'agressions sexuelles, d'attouchements et, dans certains cas, de viols.
Si c'est vrai, c'est extrêmement grave.
Ces actes n'étaient pas isolés, mais relevaient, selon les rapports, d'un comportement répété et prédateur. Emmaüs et l'Église ont reconnu la véracité de ces témoignages, exprimant leur profonde consternation et demandant pardon aux victimes. Ces révélations ont conduit à la fermeture de son lieu de mémoire et au retrait de nombreux hommages publics à travers la France.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
La perception du public, le courageux navigateur qui a ouvert le nouveau monde, symbole de la découverte et de l'audace. Sauf que voilà, la réalité du personnage était bien plus sombre. Colomb était connu comme un gouverneur aux méthodes particulièrement brutales, traite d'êtres humains, châtiments corporels fréquents comme la mutilation des mains, des oreilles et du nez, et les parodies de justice avec exécution sommaire en public.
Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave.
Ces méthodes étaient tellement barbares qu'il fut même arrêté par la couronne et renvoyé en Espagne pendant un temps. On est bien loin de l'image du doux rêveur romantique incarné par Gérard Depardieu dans le film 1492 de Ridley Scott. Jean-Jacques Rousseau, ah, cette grande figure des Lumières, célébrée pour sa réflexion sur la liberté, l'éducation et la démocratie. Rousseau, c'est l'homme qui a rédigé L'Émile, ouvrage fondamental sur la pédagogie et l'importance de l'éducation des enfants. Ce qui est paradoxal quand on sait qu'il a déposé ses 5 enfants les uns après les autres aux Enfants Trouvés, un lieu où le taux de mortalité était particulièrement élevé à l'époque. Et oui, l'homme qui a tout écrit sur comment élever les enfants n'a jamais voulu élever les siens, et les a tous abandonnés à une mort presque certaine.
Sa femme, les malappris, les sacripants, les enculés,
la douleur t'égare, Thierry.
Rousseau, c'était aussi l'homme devenu de plus en plus paranoïaque en vieillissant, voyant des traîtres partout et transformant sa vie en un interminable feuilleton de disputes publiques.
Mais c'est à moi que tu parles comme ça, mec ?
Rousseau était également un homme ambigu dans sa relation aux femmes, racontant dans Confession des épisodes de masochisme, d'exhibitionnisme et de rapports troubles avec les femmes tout au long de sa vie. Rousseau, c'est l'homme qui a passé sa vie à nous parler de la bonté de la nature humaine, mais s'est révélé de son propre aveu être un sale type qui détestait les humains.
Voleur, t'es qu'un pédale !
Le papa de Mickey Mouse est une icône de l'innocence de l'enfance. Dans la vraie vie, Walt Disney était connu comme anticommuniste profondément paranoïaque, ayant dénoncé ses propres employés pendant la chasse aux sorcières de McCarthy. Il était également connu pour gérer ses studios de façon tyrannique et brutale, et son antisémitisme a longtemps été un sujet de controverse majeure. Picasso, c'est le peintre génial, l'inventeur du cubisme, l'artiste qui a révolutionné notre vision du monde. Dans l'intimité, Picasso était connu comme un pervers narcissique qui prenait malin plaisir à dominer et à détruire ses conquêtes féminines. Sa petite fille, Marina Picasso, a écrit un livre intitulé « Grand-père » où elle raconte l'enfer familial. C'est le contraste parfait entre la beauté de son œuvre et la violence de son ego. En explorant ses vies, on pourrait facilement tomber dans le piège de vouloir les juger avec le prisme de 2026. Ce serait une erreur. Ils étaient des hommes et des femmes de leur temps, avec les limites, les préjugés et les contradictions de leur époque. Mais ce qui dérange et ce qui est fascinant, ce n'est pas qu'ils aient été faillibles. C'est que pour certains comme Rousseau ou Marx, l'écart était abyssal entre la noblesse de leurs idées pour le monde et la réalité brutale de leurs actes privés. Le théoricien de l'éducation qui abandonne ses enfants, le pourfendeur du capitalisme glorifiant les ouvriers qui vit au crochet d'une bourgeoise et d'un mécène capitaliste et qui n'a jamais travaillé de ses mains de sa vie, cela nous rappelle que l'intelligence ou même le génie ne confère aucune immunité morale. Tout cela ne signifie pas qu'il faut jeter leurs œuvres aux oubliettes. Au contraire, cela nous invite à une forme de vigilance. Il est tentant de chercher des modèles, de sacraliser des figures pour qu'elles deviennent nos boussoles, mais ces statues sont faites de chair, de doutes et parfois d'ombre. Alors oui, on peut s'inspirer des idées, mais gardons toujours une distance lucide, car pour ne pas être déçu par les hommes, il faut accepter de voir leurs failles avant d'admirer leur génie. Au fond, c'est peut-être cela la vraie leçon d'histoire, apprendre à séparer l'idée de celui qui la porte, pour ne jamais se laisser aveugler par la légende.
Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Il y a plein de papous, dans les bars, dans les bus, dans ma boîte à cachou. Manitou, Satanas, il en sort de partout. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de papous. Avec leurs cris de guerre, ils font la chasse aux autos. Ils grimpent aux réverbères pour cueillir des noix de coco. Il y a des papous. Allô, général.
Qu'est-ce que c'est?
Il y a des papous. Est-ce que c'est normal?
Ouais, non.